Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Un mix parfait pour un bon show de radio.
Il aura fallu des dénonciations de conditions de vie misérables pour que Marguerite Blais mette ses vacances un petit peu sur pause. Elle a refusé de nous accorder une entrevue, mais nous avons en ligne la chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Bonjour, Madame Anglade.
Bonjour.
Bonjour. Dites-moi, des employés de la résidence privée pour René Chartwell à Bois-de-Boulogne qui dénoncent vivement les conditions de vie déplorables dans lesquelles ces gens vivent. Est-ce que vous n'êtes pas surprise de voir que en 2020, c'est presque 6 mois là, après le début de cette situation-là, on découvre encore des endroits comme ça qui, à vue de nez comme ça, là, semblent un endroit un peu horrifiant?
Écoutez, on est quand même surpris, surtout après tout ce qui vient de se passer.
Ben oui.
Et on se dit, ben il me semble qu'on fait le tour des résidences et on se rend compte de la gravité de la situation. Là, on a demandé rapidement que la lumière soit faite. Ils ont envoyé 2 inspecteurs, très bien. Mais moi, ce qui me préoccupe présentement, c'est de savoir où ailleurs est-ce qu'il se passe ce genre de choses-là. S'il n'y avait pas de déclaration anonyme, comment le système le saurait? Comment est-ce que le gouvernement le saurait? Donc, il faut absolument qu'il y ait des gens qui surveillent ce qui se passe présentement dans notre réseau, parce qu'on peut pas se retrouver avec d'autres cas comme ça qui vont se multiplier au Québec. C'est surtout pas ça qu'on veut avoir.
Exact. Et donc, est-ce que vous avez été tenu au courant de où on en était dans l'accélération ou l'augmentation du nombre de visites de ces établissements-là?
Non. Puis on l'a demandé à un certain nombre de reprises. Et je pense que là, ce que le gouvernement doit faire, c'est vraiment être vraiment proactif. Parce que ce qu'on a constaté lors de la pandémie, c'est qu'on a réagi bien tard à bien des situations. On a attendu, puis à ce moment-là, on a été obligé de gérer des catastrophes, surtout dans la région, dans la grande région métropolitaine. Mais maintenant, on regarde déjà qu'il y a des tendances qui se produisent. On a cet exemple-là. On a de l'éclosion chez les jeunes. Donc, il faut absolument que ce soit beaucoup plus proactif dans les démarchages.
Ben oui, Madame Anglade.
Madame doit répondre à toutes ces questions. Madame doit répondre à ces questions.
Ben voilà. Alors justement, Madame Blais, pour moi en tout cas, je crois que je vais devoir vous poser une question qui m'apparaît difficile, Madame Anglade. Marguerite Blais a été ministre des années du temps de Philippe Couillard. Elle connaissait parfaitement la situation dans les CHSLD. Le Parti libéral, votre parti, même avant que vous y étiez, et Madame Blais en particulier, n'ont rien fait. Puis elle a fait le chemin inverse de vous, est passée à la CAQ, s'est encore fait nommer ministre des Aînés et n'a pas, dès sa réélection, attaqué le problème. Est-ce que vous trouvez pas que ça amène un cynisme pas possible envers des politiciens qu'on pourrait qualifier de politiciens professionnels?
Écoutez, ce qui est clair, c'est qu'il y a une imputabilité. Il y a une imputabilité lorsque tu es ministre et que des choses comme ça se produisent. Il est clair qu'avec le changement au ministère de la Santé, François Legault a clairement envoyé un message clair à son sous-ministre. Et là, c'est quelque part un aveu d'échec parce que le sous-ministre à la Santé a changé, la ministre de la Santé a changé. Si tout avait bien été, je pense que clairement, il serait resté en poste. Madame Blais, ils ont décidé de la garder. On se demande pourquoi, parce qu'il y a quand même une imputabilité. Quand t'es ministre, tu peux pas juste dire, ben, on savait pas et on peut reconnaître qu'on a fait des erreurs, mais il y a cette notion-là qui disparaît dans le cas de Mme Blais, et ça, c'est étonnant.
Parce qu'on discutait il y a quelques minutes avec l'Institut de la confiance. Le niveau de confiance que les gens peuvent avoir envers le policier, tant qu'à moi, est beaucoup égratigné ici, parce que il y a clairement, comme vous dites, une imputabilité qui n'a pas été là, mais il y a aussi c'est inexplicable de voir qu'on a été ministre, on n'a rien fait, on redevient ministre et encore une fois, il ne s'est rien produit.
Et dès le départ, lorsqu'il y a eu les comités qui ont été mis en place, déjà il y a une cellule de crise qui a été mise en place tard au Québec, au mois de mars. Mais quand cette cellule de crise a été mise en place avec 10, 11 comités, il n'y avait pas un comité sur les CHSLD. Donc quand tu es ministre puis tu es responsable des CHSLD dans une crise qui va toucher les aînés, puis on sait que ça va toucher les aînés parce qu'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on a déjà une idée. À ce moment-là, tout de suite, on aurait dû intervenir puis dire, ben là, avoir une voix forte. Très clairement, il y a une voix forte qui n'a pas été exprimée non plus. Puis encore une fois, c'est ça l'enjeu, c'est qu'il faut que tu prennes tes responsabilités à un moment donné.
Et idéalement, solliciter l'apport de tout le monde qui peut contribuer. Et ici, moi, mon impression, c'est que les partis d'opposition ne sont plus assez sollicités. Est-ce qu'ils l'ont été suffisamment lorsque la crise COVID a éclaté? Puis est-ce qu'ils le sont toujours?
Ben écoutez, et là il faut être honnête, la crise de toute façon, c'était difficile de dire comment est-ce que chacun allait devoir participer. Il est clair que les partis d'opposition n'ont pas pu jouer leur plein rôle parce que l'Assemblée était fermée, parce qu'on n'avait pas le moyen de poser des questions comme on aurait dû en poser. On a eu juste 3 semaines depuis le mois de mars pour poser des questions au premier ministre et au gouvernement. Et ça monte. Puis quand on a commencé à poser des questions, on a vu qu'il y a des choses qui sont sorties de ça. On a vu que le degré de préparation n'était pas là. Donc, pour une saine démocratie, il faut que le Parlement, reste ouvert. Puis je pense que c'est ça aussi le message qui est ressorti de tout ça.
Ben, quand vous dites que le Parlement reste ouvert, vous évoquez ici que peut-être qu'on aurait dû retarder la fermeture du Parlement pour l'été?
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ait des mécanismes où les partis d'opposition peuvent poser leurs questions et que le gouvernement est capable de répondre. C'est ça que je veux dire.
Ben,
il faut qu'il y ait un mécanisme, parce que sinon, on se retrouve dans une situation où les seules personnes qui posent des questions, évidemment, ce sont les journalistes, ce qui est bien, mais dans notre système parlementaire fait en sorte que tu as des gouvernements, tu as une opposition officielle, tu as d'autres oppositions, et c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de soulever des enjeux qu'on aurait pu soulever plus tôt si on avait été... Mais c'est facile de le dire après coup parce que on sait tous qu'on ne savait pas comment le virus se propageait et il fallait qu'on prenne des décisions. Mm-hmm. Donc, je le comprends très bien. Mais à l'avenir, il faut réfléchir à ce genre de questions.
Ben, je vous trouve vraiment constructif. Je vous en félicite. Puis, effectivement, on constate, par exemple, qu'il n'y a pas que le comité des finances qui attend M. Trudeau avec un fanal. Là, il y a plusieurs comités qui siègent de temps à autre pendant l'été à Ottawa. Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait se produire à Québec? On a souvent l'impression qu'effectivement, il n'y a maintenant que l'enjeu de santé et le gouvernement. Puis, on aimerait voir nos politiciens prendre la parole, peu importe le parti.
Mais bien sûr, je pense qu'il y a des moyens puis il y a des mécanismes pour le faire. Puis là, présentement, on est en train de discuter avec le gouvernement. Les partis d'opposition sont en train de discuter pour savoir comment ça va se passer en septembre, pour qu'on respecte les règles sanitaires, évidemment, mais qu'on puisse avoir des débats qui sont sains à l'Assemblée nationale. C'est sûr que la COVID va prendre une place importante. Le retour à l'école va être fondamental. Moi, j'ai 3 enfants qui retournent à l'école à la fin.
C'est très concret pour vous, là.
C'est très concret. Donc, on veut... il va falloir qu'il y ait un certain nombre de réponses qui soient fournies, savoir comment ça va marcher et surtout qu'on soit capable d'anticiper. Il y a une éclosion, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une éclosion? Comment ça va être géré? C'est surtout ça qui va être important.
Vous avez raison, Mme Anglade. D'ailleurs, à cet effet, si on veut anticiper, est-ce que on peut anticiper certains comités? Est-ce qu'on étudie la possibilité de ne pas attendre la rentrée officielle en septembre alors qu'on a tout le mois d'août devant nous?
Ben écoutez, c'est pas qu'on n'a pas des propositions bien concrètes puis qu'on a amené notre contribution puis qu'on dit qu'on veut contribuer, mais ça dépend du gouvernement puis de ce qu'il veut faire. Je pense qu'à plusieurs reprises on a dit à quel point on pensait que le manque d'anticipation avait vraiment manqué dans le cadre de la gestion de la crise On s'y est pris très tard. Hein? Mm-hmm. Le Québec a commandé du matériel de protection au mois de fin février, alors qu'il y a bien des provinces qui l'avaient commandé avant. On s'est rendu compte à quel point on a réagi très tard à tout ce qui a créé la situation dans laquelle on s'est retrouvé avec les résultats qu'on connaît. Maintenant, moi, je souhaite voir qu'on soit capable d'avoir ces discussions-là. Il va y avoir le retour à l'Assemblée au mois d'août pour les crédits. Puis ça va être l'opportunité aussi au mois d'août de poser des questions pour nous.
Est-ce qu'on peut raisonnablement espérer que cette consultation hebdomadaire qui avait lieu durant la COVID puisse être réentreprise dans les prochaines semaines? Parce que effectivement, on veut anticiper puis on veut à tout le moins avoir une vision, parce que ça a créé quand même une grande cohésion sociale de voir que le premier ministre pouvait dire « j'ai consulté les chefs des autres partis ». Ça crée un sentiment, un élan, ça calme la dissension, vous ne trouvez pas?
Absolument. Puis dans une période de crise, on veut s'assurer que le gouvernement ait quand même les moyens de prendre les bonnes décisions puis d'être constructif. Alors absolument. Est-ce que ça peut se reproduire? Ça, c'est la décision du gouvernement. Nous, mm-hmm. on est très à l'aise avec ça. Bon. Et ce sera la décision du gouvernement.
Bon, dites-moi, Mme Anglade, vous avez fait une sortie fort courageuse versus Walmart qui décide de faire porter un peu le poids de ces mesures sanitaires à tous ses fournisseurs. Vous êtes inquiet pour les fournisseurs québécois de cette grande chaîne?
Ben, premièrement, inquiète, mais aussi fâchée. Fâchée parce que je me dis, Walmart est resté ouvert pendant la pandémie. Nos petits joueurs ont dû fermer. Il y avait déjà une iniquité là-dedans où des petites entreprises ont dû fermer, puis Walmart vendait ses produits dans toutes sortes de catégories, l'alimentaire, etc. Et qui qui a payé le prix par rapport à ça? C'est pas de la faute de Walmart qui a une pandémie, mais ils doivent quand même reconnaître qu'ils ont été dans une situation où eux, ils n'ont pas dû fermer. Et là, ils veulent faire une transformation, très bien. Ils veulent faire du numérique, très bien. Mais ce n'est pas aux petits joueurs, à nos petits producteurs, à nos maraîchers, à notre secteur agroalimentaire, d'en payer la facture et de manière aussi drastique. On parle d'impositions de frais qui peuvent aller jusqu'à 6,25. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'imposer ça à notre secteur économique. Et au Québec, on a beaucoup de petites entreprises dans toutes nos régions. Et on veut qu'elles survivent. On parle de relance économique alors qu'on est en train de rentrer dans une récession. Alors, ce que je trouve inacceptable, c'est que malgré tout ce contexte-là, malgré la situation, il n'y a pas une prise de conscience de la part d'un géant pour dire, ben, on peut pas aller dans cette direction-là. Ou à tout le moins, on peut pas le faire de manière aussi drastique. C'est ça qui m'a fâché quand j'ai dit
mais
ça.
Vous avez tout à fait raison. Walmart a effectivement profité d'une position où il pouvait vendre des aliments pour vendre des vélos et des barbecues alors que les Sports Experts, par exemple, étaient fermés.
Puis tout le monde le sait. Puis tout le monde le sait. Le petit magasin de souliers là, qui est obligé de fermer, alors que Walmart est ouvert puis qui vend des souliers, qui lui a pas été capable de rentrer dans son argent. Ben c'est sûr que ça privilégie Walmart. Alors après tout ça, après avoir vécu tout ça, en plus, on dit ben on va faire une grande transformation, on va prendre des milliards de dollars, mais on va refiler la facture à nos petits joueurs. Pour moi, c'est pas acceptable. Et c'est pour ça que je dis, avoir été ministre, j'aurais pris mon téléphone, j'aurais appris les gens de chez Walmart, j'aurais réuni les gens dans le secteur agroalimentaire, j'aurais essayé de pouvoir des propositions.
Et Mme Anglade, ce que vous dites là, vous avez tellement raison. C'est pour ça que je vous interroge, je m'excuse, mais le temps file. Mais vous avez tellement raison. Et donc, si le Parlement siégeait, s'il y avait des échanges sur la situation de la COVID actuellement, vous auriez pu demander de l'action clairement ici. Est-ce que vous avez eu des réactions du gouvernement relativement à votre sortie sur Walmart?
Réaction molle de la part du ministre de l'Agriculture qui a dit « on est déçus ». Alors, mais moi, je suis déçue. Tout le monde est déçu. La population a compris. Est déçue. Je veux dire, là, t'es ministre. Alors, tu prends ton téléphone, t'appelles. Tu sais, parfois, on se dit, qu'est-ce qu'ils font les politiciens, là? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quels sont les éléments qu'on est capable de, les choses qu'on est capable de faire pour agir? Ben, ça, c'en est un. Prends ton téléphone, t'appelles, tu donnes ton opinion, tu coordonnes avec l'équipe. Puis, tu dois au moins démontrer que tu as une volonté de faire ça et que tu trouves ça inacceptable que ça se procède de cette manière-là. Je rappelle que Walmart avait reculé quand ils avaient décidé d'annuler un programme pour les personnes handicapées. Là. Ils avaient reculé parce qu'il y avait eu une mobilisation.
Ben voilà. Alors là, espérons que ça va bouger avant que le Parlement réouvre en septembre. Madame Anglade, je vous remercie beaucoup pour vos éclaircissements.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec et député de Saint-Henri-Sainte-Anne.
Vous écoutez Pierre Nantel.